Réplique, le passé antérieur, avec Annette Viviorca et Gilles Kepel. À propos du duc d'Orléans, assassiné par les Bourguignons, Michelet écrit dans son Histoire du Moyen-Âge. C'était un individu spécial, une personne, un être unique, irréparable, que rien ne remplacera. Rien de tel avant, rien après. Dieu ne recommencera point. Il en viendra d'autres, sans doute. Le monde qui ne se lasse pas amènera à la vie d'autres personnes, meilleures peut-être, mais semblables, jamais, jamais. J'ai repensé à cette épitaphe magnifique en lisant le livre d'Annette Viviorca, Tombeau, autobiographie de ma famille, et celui de Gilles Kepel, enfant de Bohème. Ils ont été saisis l'un et l'autre par l'impérieuse nécessité de donner à leur mort, malmenée par l'histoire, l'assistance qu'ils réclament pour ne pas disparaître complètement. Car le monde qui ne se lasse pas amènera sans cesse à la vie de nouvelles personnes, mais semblables jamais. Et une figure émerge dans chacun de ces livres, celle du grand-père que vous n'avez pas ou à peine connu. Qui était ce Wolf dont vous portez le patronyme, Annette Viviorca?
Wolf Viviorca était né à la fin du 19e siècle. Et il avait été éduqué en Pologne, dans une éducation traditionnelle comme tous les juifs polonais de cette période-là. Et il avait décidé de quitter la Pologne, pas pour des raisons politiques ou économiques, mais pour fuir un milieu religieux qu'il jugeait étouffant et pour écrire. Il a eu une vocation très précoce d'écrivain. Il a donc migré. En suivant des routes que Berlin, Anvers, et il est arrivé à Paris, où il s'est immédiatement lancé dans ses activités de création de revues, d'écriture dans la presse yiddish, qui à l'époque était une presse très importante. Et il a rencontré quelque part sur les routes de l'immigration, probablement à Berlin, une femme, Gitele, qui, elle, avait déjà 3 filles de Pologne. Ils ont formé ce qu'on appellerait aujourd'hui une famille recomposée, avec énormément de chaleur, de vie. 2 garçons sont nés, mon père, Abi, mon oncle, Méni, et ils ont mené dans Paris une vie d'intellectuels très très précaires.
Pourquoi ont-ils choisi Paris?
Ils ont choisi Paris parce que Paris, c'était la ville lumière. C'était la ville où il pensait pouvoir épanouir son art. Et parce qu'il y avait à l'époque, on l'a oublié peut-être, j'hésite au terme communauté toujours, mais disons une communauté yiddish, une communauté d'immigrés importante, avec une vie culturelle et intellectuelle, d'une très grande richesse, les bibliothèques, les théâtres, les clubs de ceci et de cela. Et dans ce Paris, ma grand-mère, comme l'ont fait beaucoup de femmes de ces immigrants juifs, tenait la maison et faisait vivre la famille en créant elle était très imaginative, des restaurants qui étaient en fait des chambres d'hôtel qu'elle aménageait en cantine. Jusqu'au moment où ils ont loué un restaurant rue d'Ulm, à peu près à l'emplacement de l'église libanaise aujourd'hui. La rue d'Ulm n'était pas la rue d'Ulm, le restaurant n'était pas vraiment un restaurant, mais c'était une espèce de cantine populaire. Aujourd'hui, on dirait aussi un espace de coworking, où les gens venaient, jouaient aux échecs, écrivaient, lisaient leurs textes yiddish, peignaient. Mon père se souvenait de cette artiste Esther Karp, qui est actuellement exposée au musée d'art et du judaïsme. Donc c'était une vie très misérable et joyeuse à la fois, et une vie qui était très, très, très créative.
Et donc, dans ce restaurant, les gens parlaient assez couramment yiddish, non ?
Ah, les gens ne parlaient pas couramment yiddish.
Ils ne parlaient que yiddish.
Ils parlaient que yiddish.
Ah, oui.
Puisque mon père racontait l'anecdote d'une altercation entre le grand poète, Itzik Manger, qui entend parler polonais dans le restaurant et qui se trouve offensé que on use de cette langue.
Jeune homme, je suis un poète yiddish. Quand vous parlez polonais en ma présence, vous insultez le peuple juif.
Voilà.
Voilà ce qu'il dit, oui.
Ce monde était vraiment le monde yiddish, avec très peu de contact avec le monde extérieur, avec la société française.
Mais en même temps, un amour de la France.
Et un énorme amour de,
oui,
un énorme amour de la France. Mon grand-père, qui parlait à peine français, lisait régulièrement l'œuvre et connaissait la littérature française parce qu'une grande partie de cette littérature était traduite en yiddish. Il paraît même que Zola en yiddish était meilleur qu'en français, disait-on.
Alors, Anna Dziorka, vous êtes née dans l'ombre portée de la guerre, comme vous l'écrivez vous-même. Et ce livre Tombeau s'inscrit, cette résurrection de vos morts s'inscrit dans une longue enquête que vous menez en historienne depuis le début de votre carrière. Pour ce qui est de vous, Gilles Kepel, les choses sont très différentes. On vous connaît comme arabisant. Très peu de gens étaient au courant de vos origines. Et là, vous opérez une bifurcation, vous lancez dans une grande aventure généalogique. On apprend que votre grand-père était tchèque. Alors, qu'est-ce qui explique, et très vite nous allons parler de ce fameux grand-père omniprésent dans Enfants de Bohème, mais d'abord, comment expliquer cette plongée que vous avez fait, à la surprise générale, dans votre passé antérieur?
Peut-être plusieurs choses. Au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais été condamné à mort par Daesh. Et non pas seulement pour faire une auto-da-fé de mes écrits, mais également pour m'égorger. Et en même temps, mon père, Milan, souffrait de la maladie d'Alzheimer. Et n'avait plus de conversation possible, sauf ces fulgurances fragmentaires du passé, un peu comme une ampoule qui brille de ses derniers filaments et qui d'un coup va s'éteindre. Et j'ai à la fois voulu retrouver ses origines pour pouvoir l'accompagner et pour être avec lui, même en pensée, dans ses derniers instants, pour d'une certaine manière l'aimer in extremis. Et puis aussi parce que finalement, moi-même aussi, j'avais également reçu une sentence de mort à mon encontre. Et donc, je me suis demandé aussi pourquoi j'avais été arabisant, qu'est-ce qui m'avait amené là et autres. Et mon tchèque est totalement inexistant, à part les mots essentiels, pivot, qui veut dire bière, et quelques autres.
Oui.
Et donc, je me suis demandé d'ailleurs si je n'avais pas appris l'arabe pour compenser l'absence du tchèque.
Le tchèque était la langue maternelle de votre père aussi, oui.
Oui, tout à fait. Les grands-parents de mon père, donc Rodolphe, le personnage clé du livre, enfin qui est la différence peut-être du travail d'Annette, qui est un travail d'historien, toujours une auto-histoire, mais avec les méthodes de l'historien. Je n'ai pas eu du tout cette ambition-là. C'est une sorte d'épopée, si vous voulez, sur une base de la découverte d'une quantité énorme d'archives,
oui,
en tchèque.
Donc on retrouve quand même...
Oui, c'est vrai, mais des archives en tchèque que j'étais incapable de déchiffrer. C'était un continent inconnu et que j'ai fait traduire. Ça a mis une dizaine d'années, si vous voulez, tout ce travail. J'ai réélaboré ce que j'ai... une sorte d'épopée pour essayer de comprendre comment j'en étais arrivé là. Donc, ça n'a aucune prétention à la rigueur scientifique, même si la plupart des faits,
oui,
sont exacts. Mais un certain nombre d'autres, je les ai retravaillés en fonction de ce que je pensais que m'avait apporté cette histoire ou cette généalogie pour constituer ce que j'étais devenu moi-même, vous voyez ?
Nous verrons tout à l'heure si, en effet, vous avez trouvé, à travers cette généalogie, les raisons qui vous ont amené à devenir ce que vous êtes et à choisir la profession qui est la vôtre. Mais vous l'avez dit, Gilles Kepel, le personnage central de ce livre, enfant de Bohème Et c'est évidemment avec un accent circonflexe, il s'agit donc de la Bohème tchèque. Le personnage central, c'est Rodolphe, Rodolphe K. Et donc Eppel, j'imagine.
C'est, oui et non, parce que justement, j'en ai fait Rodolphe K parce que c'est un personnage. C'est-à-dire, évidemment, la, le matériau de Rodolphe K, c'est mon grand-père, de Milan K, c'est mon père. Mais ce sont des personnages que je construis à partir du matériau réel. Mais on est dans, ce sont des personnages épiques. Et c'est une lettre au père, d'une certaine manière. Il y a un autre tchèque qui a écrit une lettre au père, oui. Qui était juif, lui, Kafka. J'ai écrit à mon père. C'est une lettre, c'est un livre à la deuxième personne. Oui. Je m'adresse à lui en lui disant « tu ». Et je lui raconte son histoire telle qu'il ne l'a probablement jamais connue, alors que son propre père lui écrivait, dès qu'il était encore enfanson, des cartes postales qui vantaient, des cartes postales de la France, depuis la cathédrale de Chartres, jusqu'aux falaises d'Étretat, qui vantaient les beautés de la France et la France comme cœur et symbole et raison du monde. Un peu comme dans le cas d'Annette, c'est un homme qui est complètement tombé fou amoureux de la France, alors que il n'était pas prédisposé à cela. C'était le fils d'un garde-chasse. Alors, je l'appelle dans le livre capitaine des chasses, puisque La Fontaine était capitaine des chasses du duché de Château-Thierry. Donc, j'en ai fait le capitaine des chasses du comté de Nadiejkov, qui est un très joli village, d'ailleurs, en Bohême du Sud, près de Tabor. Et au lycée, dans ce que j'ai retrouvé au lycée austro-hongrois, ses carnets scolaires, ses notes au bac, les sujets qu'il avait traités, il a traduit l'ode d'Horace Alidi du latin au tchèque. Et c'est peut-être ça qui lui a donné ensuite des idées assez particulières sur la façon dont il fallait vivre avec les femmes. Donc j'ai découvert tout ça à partir d'une espèce d'enquête méticuleuse. Et j'ai écrit à mon père sur son père, si vous voulez.
Oui, donc Rodolphe arrive en France
en 1908.
Quel métier exerçait-il en Bohême qui appartenait alors à l'Empire austro-hongrois?
Il était prof de français, allemand et
Il avait fait des études de romanistique.
Voilà, c'est ça, la romanistique française, qu'on appellerait aujourd'hui un PEGC, si vous voulez, plusieurs matières. Il avait été élève de Masaryk, mais surtout fasciné par l'élément clé. C'était l'exposition Rodin en 1902. C'est ça qui va accrocher les élites intellectuelles tchèques à Paris, et aussi pour utiliser le grand souffle de Paris pour balayer Vienne, c'est-à-dire pour l'émancipation des Tchèques de l'Empire austro-hongrois. Alors il arrive à Paris parce qu'il en a marre d'enseigner, il s'ennuie, il trouve que c'est pas pour lui, les élèves l'ennuient. Il arrive ici et il va être le premier traducteur tchèque d'Apollinaire. Et j'ai reconstitué, d'une certaine manière, leur rencontre en 1902. Je ne sais pas si elle a eu lieu ou pas. Apollinaire est allé 3 jours à Prague en 1902, au moment de l'exposition Rodin. Il accompagnait une famille, faire le grand tour d'Europe. Il a eu 2 jours de congé depuis Dresde. Et j'ai utilisé pour ça le matériau, justement, du passant de Prague. Cette nouvelle d'Apollinaire qui fait partie du recueil « L'Hérésiarque et compagnie », dont mon grand-père sera ensuite le traducteur.
Et donc, il arrive en France, plein d'amour pour ce pays, pour la culture de ce pays, et cet amour d'ailleurs, il va l'éprouver toute sa vie, vous le dites à la fin du livre, vous citez une lettre où il parle de son amour de l'art, de son culte d'art, de sa religion de l'art, qui ne l'a jamais quitté, qu'il a en fait transmise à son fils, puisque nous le verrons, celui-ci est devenu comédien. Et là, c'est ce que les deux grands-pères ont en commun, mais il y a une différence quand même. Annette Wiorka, c'est que Wolf, il n'a pas la nostalgie, vous le dites, du shtetl. Il le dit, le shtetl, la petite bourgade juive, parce que c'était quand même le lieu des mariages arrangé, de l'absence de liberté. Et d'un autre côté, Paris, c'est aussi, pour les Juifs, yiddishisant, la ville de la misère. Donc, il aime la culture française, mais il n'est pas... Il y a une double souffrance, quand même, pour lui.
Il a consacré un certain nombre de ses nouvelles au shtetl. Et il n'y a jamais chez lui ce qu'on trouve chez certains écrivains yiddish, c'est-à-dire la romance, la beauté du mort, au contraire. Mais en même temps, il ne masque pas à quel point la vie à Paris pour les immigrés est difficile. Il y a une série de nouvelles qui se situent dans les garnis du quartier de l'Hôtel de Ville qui ont été démolis aujourd'hui, où il met en scène tous ces juifs pauvres. Et il aurait pu rencontrer le grand-père de Rodolphe, parce qu'il fréquente les mêmes cafés.
Oui, j'ai vu ça, voilà, la Rotonde, le dôme.
Et ce sont les cafés où viennent les artistes misérables. D'ailleurs, même certains des artistes qui sont devenus, enfin, qui sont aujourd'hui avec des cotes extravagantes, étaient misérables à l'époque. Et il fait notamment un certain nombre de portraits de ces peintres. Mais malgré tout, malgré la misère, c'est quand même le choix de la France. Alors, je vais tout de suite mettre papa un bémol, mais dans la façon dont il considérait sa judéité, pour lui être juif, c'était être de langue yiddish, on devait créer une vie culturelle autonome en diaspora. Il n'était pas sioniste. Mais il considérait que le noyau de la culture yiddish était le noyau religieux. Et à plusieurs reprises, il écrit que les écrivains yiddish qui n'ont pas eu la culture qu'il a eue lui en allant au Reder, en allant à la yeshiva, sont de moins bons écrivains. Et s'il était, j'ose pas dire athée, ça n'a pas de sens, mais s'il n'était pas pratiquant, il y a d'abord une caractéristique, c'est qu'il a toujours gardé la barbe.
Ah
et
oui.
Il n'y a pas de barbe. Quand vous voyez les 200 congressistes du congrès de la culture yiddish de 1937, c'est le seul qui a la barbe, ce qui le rend facile à reconnaître. Donc je me suis toujours demandé si cette barbe n'était pas une trace du racidisme de son enfance.
Il dit d'ailleurs, même en vieillissant, je n'ai jamais été anti-religieux, je suis plutôt a-religieux, je n'ai jamais combattu contre l'obscurantisme.
Ça c'est mon père, religieux. C'est ce qu'il a transmis à mon père,
ah oui.
Qui était très proche, et mon père n'a effectivement jamais combattu contre l'obscurantisme religieux, mais mon père n'a pas voulu d'un kaddish sur sa tombe, il y a une sorte de cohérence.
Oui, une sorte de cohérence. Et alors, d'autre part, il y a eu un congrès donc de la culture yiddish, c'est ça ?
Alors, il y a eu un congrès de...
Et là, il a eu une attitude, ce Wolf,
alors, il faut
se... singulière.
Alors, il faut s'imaginer cet homme petit de taille, frêle, qui assiste donc à cet énorme congrès de la culture yiddish. C'est un congrès organisé par les communistes, par le Comintern. Dans ces 36-37, ce sont les années de front culturel contre ce qu'on appelle d'un terme générique le fascisme. Donc il est à ce congrès. Et la caractéristique de ce congrès, c'est que les écrivains viennent du monde entier, sauf de l'Union soviétique. Et il se lève et il apostrophe l'assemblée en disant « Où sont nos frères écrivains de l'Union soviétique ?» Et là, il est hué. Et d'ailleurs, le protocole de ce congrès a été publié en yiddish et les huées sont marquées. Et de façon très curieuse, cet épisode auquel assistait et mon père et mon oncle les a marqués de façon différente. Mon père était terrifié. Mon père, j'ai remarqué ça à plusieurs reprises, chaque fois qu'il y a une manifestation de violence, verbale ou physique, il est terrifié. Et mon oncle, qui était plus jeune, qui était trotskiste, a eu honte. Et dans la très longue interview vidéo que mon oncle a donnée à une antenne de collègues de vidéo, il a cette phrase que je trouve bouleversante. C'est le seul moment, quand il raconte ça, où il étouffe un sanglot, et il dit « J'aurais aimé que mon père n'ait pas été déporté pour pouvoir lui dire à quel point j'étais fier de lui. »
Oui, parce
Mais c'est cette phrase qui est invraisemblable.
Non, c'est sens, parce que vous dites aussi que, en fait, il a honte,
Alors, je crois que c'est lui, donc, votre oncle, me semble-t-il, qui a son père. T'aurais quand même pas voulu que Kerensky reste au pouvoir. Et votre grand-père est bon, mais si. Et si, et votre oncle est révolutionnaire et il est très choqué par cette réponse.
Voilà, mon oncle, qui voulait être ouvrier, tourneur, Yvan le Tourneur, c'était son pseudo, pour faire la révolution, mais il n'était pas tout seul. Il y avait la sœur aînée Anna, dont je porte le prénom francisé, qui elle était aussi trotskiste. Et il y a, chez Wolf Wiewiórka, un certain nombre de nouvelles, dont ma nouvelle préférée, parce que je dois m'identifier un petit peu, Bella la dévote, ou Bella la pieuse, die fromme Bella, ouais. Qui est très très pieuse, qui observe tous les commandements de la religion juive, mais comme la famille est misérable, elle travaille en usine, on lui dit qu'elle ne peut quand même pas participer à une grève, donc elle devient, par la grève, elle devient communiste. Elle commence à être un peu vieille fille, mais elle trouve un communiste aussi fanatique qu'elle. Et ils vont se marier, mais Dieu leur envoie, comme dit la nouvelle, l'opposition trotskiste. Et le promis devient trotskiste, et elle reste vieille fille.
Et parce que je ne supporte pas qu'il soit trotskiste.
Et il y a des traités entiers aujourd'hui sur la question du communisme comme conversion. Dans cette nouvelle et d'autres, Wolf Wiewiórka avait vraiment saisi l'essence de ce phénomène, qui est le passage de la croyance à une autre croyance.
Alors, ce n'est pas ce qu'a connu votre grand-père, Gilles Kepel. Il a quitté la Bohème, amoureux de la France. La guerre le surprend en France.
La Première Guerre mondiale, oui.
C'est la Première Guerre mondiale qui met fin par l'industrie du massacre, à l'explosion vitale qu'a été la Belle Époque, et la guerre qui va accoucher de la Tchécoslovaquie nouvelle, qui représente pour lui un très grand espoir, un peu douché parce que il est écarté.
Un espoir déçu très rapidement, oui.
Des instances dirigeantes par les intrigues, les manigances, semble-t-il, d'un personnage que moi j'avais appris à aimer, Benesch.
Et son ancien élève.
Qui était son ancien élève, en plus. Mais, il est toujours resté quand même fidèle à la Tchécoslovaquie, tout en aimant la France et tout en participant intensément à la vie culturelle parisienne.
Oui, en fait, il est en 1914 quand la guerre éclate. Bon, il fréquente Apollinaire, il amène les tableaux de Derain à Prague. Enfin, il est un passeur culturel. Il tient une rubrique sur Montparnasse dans la presse tchèque à l'époque. La presse était intéressante et sérieuse, comme vous le voyez. Et le premier enjeu quand la guerre éclate, c'est que les Tchèques ne soient pas internés comme Austro-Hongrois. Donc ils vont créer ici une espèce de colonie tchèque qui aura fonction consulaire. Et lui, il accueille dans son appartement à Montparnasse, rue Boissonnade. Donc s'il est passé de la Bohème avec un accent circonflexe à la Bohème...
Voilà, c'est ça. Grave, hein, c'est toute l'histoire du livre.
Voilà. C'est entre la Bohème et la Bohème. Et donc il accueille la première revue indépendantiste dont il est secrétaire de rédaction, qui s'appelle « La Nation tchèque ». Qui sera un peu l'organe central de la propagande. Mais il en est évincé assez rapidement, parce que c'est un gros enjeu de pouvoir... par Benesch, qui sera le second président de la République, qui effectivement lui met ce qu'on appellerait une histoire pré-MeToo, si j'ose dire, sur le dos, en l'accusant d'avoir été, sinon le père, du moins l'intermédiaire, pour qu'une jeune fille qui a été engrossée et accouchée est un petit garçon qu'il faut entretenir à l'hôpital. Donc, comme Masaryk, le président, est assez austère, le nom de mon grand-père disparaît à ce moment-là de l'ours de la revue. Et bon, même s'il reste toujours très tchécophile, etc., il regrette que son fils ne soit pas plus imbu de culture tchèque, même si c'est lui qui lui a donné la culture française absolue qu'a eu mon père aussi. Il prend ses distances et finalement, il va choisir la Bohème avec un accent grave pour sa résidence. Il reste à Montparnasse,
oui.
Vit une vie de patachon pendant les années folles et il a finalement un petit job d'attaché culturel dont la principale occupation, c'est d'aller chercher à la gare de l'Est les jeunes filles de la bourgeoisie tchèque qui apprennent le français. Deux cas de figure, soit elles sont vraiment pas à son goût et il les raccompagne à l'hôtel, soit il leur trouve un intérêt et il y a rue Boissonnade à Montparnasse, Porto et plus si affinité, comme elles arrivaient très régulièrement, ça le contraignait à un strict célibat, jusqu'à ce que l'une d'elles mette le grappin, si j'ose dire, ou en fait s'empare de son cœur et de son esprit. Mais avant cela, il a un moment qui est amusant et qui me fait penser, peut-être c'était ça aussi inconsciemment qui m'avait tiré vers ce que j'ai fait dans ma vie, il est lassé des débauches de le carrefour Vavin, vous savez, alors était nommé par Jules Passin, qui était un de ces artistes juifs, Mordechai Pinas, juif bulgare, qui avait peint le corps féminin dans toutes les contorsions possibles avant-guerre, et même lui déclare que le carrefour Vavin, envahi par le flux yankee, parce que le dollar a atteint des sommets extraordinaires jusqu'à la crise de la Grande Dépression, c'est le pubis vérolé de l'univers. Donc il a un moment, il en a, ça lui dégoûte un peu, et il va en Algérie. Il fait un voyage en Algérie et il découvre dans l'Algérie, dans le désert en particulier, une espèce de beauté extraordinaire. Et il en rapporte, lui qui s'intéressait qu'au plaisir masculin, à mon sens, il en rapporte des poteries kabyles absolument extraordinaires que j'ai toujours chez moi, qui sont, et j'ai étudié ça assez longtemps, c'était un peu mes dieux l'art depuis mon enfance, j'étais toujours sur ma bibliothèque, celui de mon père puis la mienne, qui sont le cri des potières, depuis les tréfonds de la préhistoire et à travers leur survivance dans le dur Jura, qui sont la revendication du plaisir féminin, si vous voulez. C'est assez extraordinaire. Mais je ne crois pas s'il en est conscient, lui-même. Et ça, sont des choses que je découvre bien après, comme son petit-fils, comme le petit-fils du personnage de Rodolphe K. Et donc, il va faire la connaissance de cette jeune femme.
Milada,
qui a 30 ans de moins que lui. Alors, il l'a fait tout de suite peindre par les peintres de Montparnasse. Il y a d'assez beaux portraits d'elle dans la fin des années 20. Ils sont dans une relation extrêmement complexe. Il a été, donc, il a traduit pour le bac Horace et Lydie, qui est un hymne au polyamour, d'une certaine manière, dans l'Antiquité. Il a aussi été très influencé par la saga des Adamites, une secte hussite extrémiste qui, à côté de son village, au Moyen-Âge, prenait l'amour libre et on les appelait les Adamites parce qu'ils allaient nus au culte et il y avait dans beaucoup de ces sectes la communion des femmes. Donc tout ça, je pense, l'a pas mal influencé. La jeune femme supporte pas très bien cette histoire d'un monsieur beaucoup plus âgé et elle part chez un autre peintre qui s'appelle Otakar Kubin, naturalisé sous le nom de Othon Kubin, à Simiane, dans les Alpes de Haute-Provence, où là se noue, c'est le cœur du livre, l'espèce de correspondance torrentueuse qu'ils ont pendant 7 semaines et passionnée,
où
qui est très d'une certaine lacanienne, tu n'as pas voulu me dire qu'il fallait que je t'aime en restant là, etc. Et c'est un moment important qui culmine dans le fait il a la hantise que Kubin la peigne nue. Elle lui dit que non, mais j'ai la quasi-certitude que le nu assis de Kubin au musée de Prague, c'est bien elle, car on la voit que de dos, on voit pas son visage, mais j'ai retrouvé les formes qui étaient celles de ma tante quand nous l'emmenions à la plage quand j'étais jeune, d'une manière qui me semble imprescriptible. Peut-être, après tout, est-ce une erreur ou un fantasme, ça n'a pas d'importance, mais ça fait partie du pacte fictionnel de cette épopée.
Oui, pacte fictionnel, il n'empêche que cette épopée, le cœur, vous en avez dit, c'est cet amour entre Milada et Rodolphe. Et la correspondance que vous avez fait traduire y tient une grande place. Amour tourmenté de Rodolphe, qui est plus âgé pour Milada, notamment parce qu'elle est absente, qu'il veut la faire revenir. Très grande lucidité de cette Milada, qui dit « si je t'épouse, ce sera bien au début, mais plus tard, moi je voudrais vivre plus et toujours davantage, et toi tu souhaiteras le contraire, je devrais faire de grands sacrifices pour m'adapter à toi, et j'ignore si j'en suis capable. » Toujours est-il que le mariage a lieu.
À la mairie du 14e arrondissement.
À la mairie du 14e arrondissement. Et que les choses tournent très vite mal. Et c'est d'ailleurs un moment tragique du livre, parce que Milada souffre énormément des incartats, des escapades de Rodolphe, plus âgé mais toujours aussi libertin, et elle finit dans folle. Une clinique psychiatrique, folle, paranoïaque. Elle a toujours des correspondances, une correspondance avec ses parents et avec Rodolphe, très très belle, hein, des deux côtés. Et elle meurt dans des conditions non élucidées, et il se retrouve veuf, rue Boissonnade.
Alors, avant d'être, en fait, ça se passe à Genève, parce que il réussit finalement à décrocher un job un peu mieux payé. Bénech lui pardonne leur dispute passée à la demande du père de Milada, qui est d'ailleurs plus jeune que Rodolphe et qui était banquier, et il obtient un travail. Alors là, c'est un peu un rôle de Solal, si j'ose dire, du livre de Solal qui se passe à Genève, Belle de jour. Il est le responsable du bureau de presse tchécoslovaque, la Société des Nations. Là, ils sont assez bien payés, et au moment où commence la Grande Dépression, il parcourt l'Europe dans les villégiatures de la Côte d'Azur, à la Baule, etc. Mais elle a du mal à s'adapter. Elle-même ne partage pas la passion française absolue qu'il a. Elle n'arrive jamais à parler très bien français. Et lui, il écrit d'une manière extraordinaire. Et l'essentiel de sa littérature est en tchèque. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je me suis trouvé traduire. Mais j'ai trouvé quelques textes rares en français, dont une lettre hallucinante qu'il écrit en 1911 à Apollinaire. Depuis la Bohème, Apollinaire vient d'être mis en prison, puisque il était impliqué dans le vol, enfin soupçonné dans le vol de la Joconde. Apollinaire avait une mère qui vivait de ses charmes au Vatican, puis ayant épuisé le denier du culte, est passé à Monte-Carlo, où est né le frère d'Apollinaire. Donc, fréquentait un milieu un peu interlope, disons, pour aller rapidement. Et on l'accuse d'être mêlé à cela, et mon grand-père, peut-être un peu naïf, considère que c'est la vie élevée d'un poète. Enfin, qu'est-ce que ça a à voir? Ça, c'est un soupçon inacceptable. En réalité, Apollinaire est un peu plus filou que ça. Et donc, il écrit une très jolie lettre avec un français assez travaillé, et d'une certaine manière, on m'a fait la remarque sur ce livre, mais votre français est trop recherché, etc. Je crois que pour nous autres, les métèques, au fond, peut-être c'est une vision excessive que j'ai, mais le français, c'est la réalisation, quand nous réussissons à écrire une phrase, où on parvient à cette espèce d'adéquation du son et du sens, du signifié et du signifiant, c'est un plaisir, une délectation d'ordre sensuel, si vous voulez. Contrairement, alors peut-être que les Français, les vrais Français aussi, mais je suis un faux métèque en réalité.
Oui,
mais, oui bien sûr. Mais
bon, vanté en
absolument.
Disant
que ça métèque. Oui, quand même.
Avec
quand
ma
même.
Gueule de métèque. C'est quand, pas donné à tout
quand
le monde.
Hein. Oui, quand j'étais jeune, je souffrais à l'école, justement, d'une forme d'identification, comme telle, d'extranéisation, si vous voulez. Et donc, voilà, ça finit mal, ils finissent folles, et après, ils reviennent ici, en France, pendant la Grôle de Guerre, et c'est là qu'il y a l'épisode munichois dont on parlera tout à l'heure, si vous le souhaitez.
On va parler très vite, on va avancer un peu. Il y a un côté Wieviorka, un côté Perelman, Rachel Perelman et votre mère. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur la famille Perelman. J'ai un peu connu vos parents. Votre père plutôt et son frère, parce qu'il recevait au cercle MEDEM.
Ma mère était là aussi.
Et votre mère était là aussi, voilà. Oui. Donc j'ai connu votre mère, mais c'est votre père et votre oncle qui faisaient les discours de réception, etc. Et je connais un peu maintenant Marc Perelman, votre cousin. Et donc on suit leur pérégrination jusqu'à la guerre. Et pendant la guerre, et alors ce qui m'a frappé dans le livre de Keppel, c'est l'importance de Munich, et dans votre livre, et c'est votre père qui parle, je crois, ou son frère, je ne sais pas, l'importance de la guerre d'Espagne. Il dit, la guerre d'Espagne, ça a été un événement plus important, il y a plus de retentissement pour nous que la déclaration de guerre. Évidemment, il ne savait pas ce qu'il allait suivre.
Alors c'est vrai que la guerre d'Espagne a été un moment de mobilisation de toute la gauche française extraordinaire. Alors la famille Perelman, ce qui m'a frappé en réfléchissant au destin des deux branches de ma famille, c'est que sociologiquement, ils sont identiques. C'est-à-dire que Ils émigrent après la Première Guerre mondiale. Ils ne parlent que yiddish. Ils sont extrêmement modestes. Ils sont de sensibilité de gauche. Et pourtant, ces deux familles si différentes, malgré ces points communs. Et du côté des Perelman, on est plutôt communisant, peut-être même communiste, mais le travail absorbe toute l'énergie, donc il n'y a plus de militantisme, alors qu'apparemment, en Pologne, il militait. Et au moment des années 30, par une espèce de mouvement, chez les Perelman, on veut s'intégrer, on veut monter dans l'échelle sociale, et pourtant, au moment où les choses se gâtent, au moment de l'affaire Stavisky, qui aussi a eu plus de retentissement que l'avènement de Hitler, on envoie les enfants au YASK, au Yiddisher Arbeiter Sport Club, qui dépend de l'international communiste, du sport interne, de l'international du sport. Et bon, le YASK, c'est important, c'est du YASK que sont issus ceux qu'on connaît bien, pour avoir été sur la fiche rouge, les sportifs, les grands résistants. Et le YASK se prépare à la grande manifestation sportive qui doit avoir lieu en 36. Alors en 36, on rejoint les intérêts de mon cousin Marc de Perelman, en 36 doivent avoir lieu les Jeux Olympiques. Berlin a été choisi à l'époque de la République de Weimar. Mais entre le choix de Berlin, Barcelone étant le second choix, et la tenue des Jeux Olympiques, il y a eu Hitler. Et à ce moment-là, les communistes organisent des Olympiades en Espagne, et c'est la première fois que ma tante, mon oncle, obligé de traîner la petite sœur qui était ma mère, partent pour l'Espagne, pour Barcelone, pour participer à ces sortes de contre-Jeux Olympiques. Et ils arrivent. Et il y a le coup d'état de Franco.
Ah oui.
Donc, ils sont réembarqués vers la France. Mais c'est un épisode qui a beaucoup, beaucoup marqué, leur mémoire. Oui.
Et donc, le grand épisode pour les Tchèques de Paris qui aimaient la France de tout leur cœur et de toute leur âme. Leur âme, c'est Munich. Et vous racontez une histoire terrible arrivée à votre père.
Oui,
qui s'appelait Milan.
C'est terrible. Il a sauvé l'honneur, disons. Et un peu comme dans le cas d'Annette, quand mon grand-père est encore à Genève, il écrit à sa jeune femme, justement, qui est en villégiature, je peux pas répondre parce que Hitler a encore fait des siennes. Et les Tchèques, en particulier les Bénèches, voient avec effroi Locarno, Stresa, enfin l'Allemagne qui est en train de violer les traités. Ils envisagent la fin de la Tchécoslovaquie. Et effectivement, il y aura l'invasion un peu plus tard. Mais Munich, là, ils sont rentrés en France. Ils ont passé, après Genève et la mort de Milada, ils ont passé quelques mois en Bohême, où mon père n'a pas plus à l'école française qu'il allait en Suisse. Il parle d'ailleurs avec des helvétismes, il disait 70 et 90 jusqu'à la fin de sa vie, trouvant que c'était quand même plus... Ça a été mieux avec le génie de la langue française, si vous voulez. Et puis, il arrive au lycée Montaigne, où j'ai ensuite moi-même fait mes études et mon fils cadet aussi, donc il y a une tradition. Et là, le prof demande, à la rentrée en sixième, bon, des mots, demain, faites des phrases avec inévitable. Alors, il a un peu oublié, il demande à son père, qui lui dit, voilà une belle phrase, on dit que la guerre est inévitable. Il lève le doigt tout fier et les gosses français lui disent « Salaud, espèce de tchèque, c'est à cause de toi, on va avoir la guerre » et viennent lui casser la gueule à la récré. Mais comme il avait abattu des arbres en Bohême, c'était fait, il me dit, des biceps de bûcheron, il les met au tapis, il est collé, son père est convoqué au bureau des surveillants, mais il a sauvé l'honneur contre les Franciliens capitula de Daladier qui venait juste de rentrer de Munich.
Alors, capitula, mais... Il y a un ancien article d'Emmanuel Terret paru dans la revue de Maurice Landander, Le Genre Humain, sur l'esprit de Munich, et c'est un article très intéressant parce qu'il dit que Munich, c'est pas seulement la lâcheté, c'est la morgue. Il cite Chamberlain, combien il est horrible, combien fantastique, combien incroyable que nous en soyons à creuser des tranchées, à essayer des masques à gaz en raison d'une querelle qui s'est produite dans un pays lointain, entrant des gens dont nous ne savons rien. Et le journaliste Stéphane Lausanne n'est pas en reste lorsqu'il écrit que la France n'a point apporté à bras tendus tel ou tel amalgame inconnu de races diverses dans les Balkans. C'est déjà les Balkans. On a connu ça d'ailleurs au moment de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, mais c'est intéressant le mépris qui a justifié la couardise, quoi, au moment de Munich.
Oui, il y a eu ça, et puis surtout, en fait, c'est en fait aussi l'effondrement de la France qui n'arrive plus à avoir la vocation universelle sur laquelle elle avait bâti tout son crédit. En réalité, elle avait perdu la puissance financière, le monde a basculé vers les États-Unis, l'Angleterre aussi est en train de se casser la figure, mais il y a un effondrement moral qui l'accompagne et qui le précède, et ça contraindra, ça ouvrira le grand épisode où les deux familles, celle d'Annette et la mienne, souffrent du nazisme, évidemment, d'une manière incommensurable, puisque famille juive, celle d'Annette est frappée par la Shoah, la déportation, l'autre, mais de mon côté, donc, mon père et ses enfants fuient en Angleterre. Ils sont embarqués à Pauillac le 19 juin 40. Mais le capitaine du bateau étant pétainiste, refuse d'aller à Londres. Et ils vont au Maroc. De là, ils passent sur un convoi qui va à Gibraltar. Et c'est assez marrant parce que je savais que Pauillac, pour moi, c'était un cru. Et cette histoire m'avait été racontée. Je savais pas que Pauillac, c'était le fond du golfe de Gironde où aboutissaient les transatlantiques. Et un jour, à Jérusalem, à l'hôtel American Colony, je rencontre un viticulteur qui me raconte qu'il est de Pauillac. Il m'invite, je vais raconter l'histoire, et il me fait, vous savez, à Bordeaux, on fait goûter des vins, il me fait goûter une bouteille extraordinaire, avec un liquide couleur café, vous le buvez, c'est mort, il ne faut pas l'agglutir tout de suite, il revit dans votre bouche d'un coup. Il me dit, alors Gilles, vous avez dominé l'unésime? Je dis, non, pas du tout. Il me dit, votre père, en 1940, a vu en fleurs des vignes qui ont produit ce vin. Alors là, vous savez, j'étais dans un état flageolant.
Je comprends. Alors, justement, comment votre famille, vos familles, Perelman, et Vigiorca ont-elles traversé la guerre?
Alors c'est une longue histoire que je oui. raconte en détail. Du côté des Perelman, après avoir fait, comme on disait, l'exode, la famille remonte à Paris et la vie reprend quasiment normalement. Le fils aîné, Roger, fait sa Matsup au lycée Condorcet, mon tailleur de grand-père ma grand-mère fait un marché noir intensif, si bien que la situation économique est plutôt pas trop mauvaise. Et la première alarme, c'est mai 41, quand mon oncle Roger reçoit le fameux billet vert et qu'il est interné à Pithiviers. Il s'évade.
Billet vert, c'est ce qu'a reçu mon père.
Voilà,
aussi.
Ouais. Et l'interné à Pithiviers, comme il s'ennuie, il est jeune, alors il emporte ses manuels de mathématiques, c'était un passionné de mathématiques, il accepte d'être placé chez un agriculteur, et puis un beau jour, les huit jeunes gens qui étaient chez l'agriculteur s'évadent, il revient à Paris, puis commence tout un périple qui le mènera finalement à Nice. Ma grand-mère maternelle, Rava, Ève en fait, qui a toujours géré les affaires de la famille avec un sens pratique et une très grande intelligence, organise, après la rafle du Veldiv, pendant la rafle du Veldiv, la famille reste dans l'appartement. La concierge est fait monter dans une chambre de bonne, les fait redescendre. Finalement, ma grand-mère dit, on bouge pas, ils enfonceront la porte. Et les policiers n'ont pas enfoncé la porte. Et après la rafle du Veldiv, ils partent en deux groupes. Mon grand-père, ma tante, tout juste mariée, son mari d'un côté, ma mère avec sa propre mère. Et en passant la ligne de débarcation sur une barque à Saint-Jean-des-Vignes, près de Chalon-sur-Saône, les Allemands tirent sur la barque. La barque coule. Ma mère et un couple, les Ornstein, ma grand-mère et un couple sont noyés. Ma mère nage, elle est sauvée. Et le passeur rembourse le passage. Et ensuite, tout le restant de la famille, mon grand-père, ma tante, ma mère, vont passer la guerre à Grenoble et sans, disons, difficulté.
Le grand-père Perelman.
Perelman. Raskiel.
Vous avez connu Jacques Ziel,
j'ai connu,
très bien.
Puisque c'est le seul que j'ai connu. Il est mort en 88.
Alors que très bien connu. Wolf, lui, a été déporté.
Et mon oncle, Roger Perelman, se retrouve donc à Nice, et toute la famille est à Nice. Après août 42, c'est-à-dire après les rafles en zone libre, le sol brûle, et un certain nombre de juifs, dont mon père, mon oncle et un de leurs amis, décident de passer en Suisse. Donc c'est toute une épopée de réussir à passer
que vous
en
racontez.
Suisse. Que je raconte. Ils sont en Suisse, ils se retrouvent dans ce camp de Grünbad où il y a Manès Perber, Lucien Goldman. Mon père a adoré la période des camps en Suisse. Mais le reste de la famille, quand les Italiens quittent la zone et que les Allemands s'abattent avec une cruauté, une férocité, une violence extraordinaire, sont arrêtés, déportés dans le convoi du 28 octobre 1943. Avec mon oncle Roger Perelman, ils ne se connaissaient pas. Et de cela, seul mon oncle reviendra.
Et oui, votre grand-père mourra après, d'ailleurs, alors, je crois, la libération.
Mon grand-père, il défie toutes les statistiques parce que, compte tenu de son âge, de son type de physique, il n'aurait jamais dû être sélectionné, passer la sélection, hein, ça c'est de la langue nazie. Mais il rentre dans le camp. Je pense qu'il a été protégé parce qu'il était une figure connue du monde yiddish. Et il va être affecté à un commando qui travaille à l'abri, qui est le commando qui trie les effets.
Canada.
Le Canada. Et être reconnu par les écrivains du ghetto de Lodz. Le ghetto de Lodz est liquidé, c'est toujours de la langue nazie, hein, tardivement, en août 44. Et c'est par ces écrivains du ghetto de Lodz que j'ai pu retrouver des témoignages sur mon grand-père, qui est décédé au moment de l'évacuation du camp en janvier 1945.
Alors, malheureusement, l'émission va bientôt se terminer, Gilles Kepel, mais j'aimerais... Donc la guerre a été difficile, mais moins tragique pour votre famille. Rodolphe et Milan, votre père, ont survécu. Là, je vais avancer pour poser ma dernière question. Votre grand-père nourrira un anticommunisme farouche. Il ne se résignera pas à la mainmise soviétique sur la Tchécoslovaquie, faussement indépendante. Et j'apprends que votre père choisit le métier de comédien, ce qui fait d'une certaine manière plaisir à votre grand-père parce qu'il a dévoué sa vie à l'art. Mais il a été longtemps un acteur, un metteur en scène communiste, avec une prédilection d'ailleurs pour cette pièce tchèque qu'il a adapté, le bras Solva Schwaig. Alors, comment expliquer, justement? C'était une manière de rompre avec le grand-père?
Probablement, oui. Pendant la guerre, effectivement, mon grand-père, lui, devient très, 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 très catholique. Il prie tout le temps, parce qu'il y a des bombes qui leur tombent sur la figure en permanence. Ensuite, il revient à Paris. Et là, son fils va devenir acteur et français. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, le Parti communiste contrôlait la moitié ou les deux tiers du secteur culturel, hein, et donc les emplois étaient là. Il devient un jeune premier, il va notamment commencer par jouer des pièces françaises, puis finalement, abandonnant le communisme en 56, il fait la connaissance de Václav Havel. Il est le premier traducteur de Václav Havel en français. Mais ensuite, quand les pièces de Václav Havel était peut-être un très bon homme d'État, je ne sais pas, mais un dramaturge assez médiocre, il aurait continué à les financer, ça nous aurait complètement ruinés. Il arrête. Quelques temps après, Havel vient en France en 1990.
Oui,
et Havel lui en veut un peu. Jack Lang les introduit avec notre ami Jacques Roupnik. Et il dit, ah oui, Milan, ça fait longtemps. Il ignorait que moi j'étais à côté, évidemment, que... En fait, mon père prenait les droits de Havel pour les soustraire à l'agence communiste, et que quand on allait à ce qu'on appelait la Tchéco, je cachais dans mes sous-vêtements les billets de 100 francs suisses, francs français et francs belges, que nous donnions à Havel, lequel pouvait, grâce à cela, aller dans les magasins pour étrangers, s'acheter des chaussures solides et du bon saucisson. Mais, si vous voulez, l'ingratitude des grands, c'est aussi quelque chose que, à travers trois générations, nous avons vécu, et c'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux que je me tourne désormais vers la littérature.
Ah bon, bah écoutez, donc vous retournez vers la littérature, on attend d'autres livres de vous, Gilles Kepel. Alors je rappelle celui que vous venez d'écrire, « Enfant de Bohème ». Vous le parsemez de mots rares, et il y en a un que j'ai découvert grâce à vous, et là, je vous en remercie, j'ai du mal parce qu'il n'est pas dans les dictionnaires, Wikipédia m'a aidé, c'est compersion, le sentiment que l'on éprouve lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. C'est merveilleux parce que la compassion, c'est un sentiment beaucoup plus exigeant et plus vertueux que la compassion.
Enfin, vertueux, je ne sais pas.
Parce ah, c'est difficile de se réjouir du bonheur d'autrui.
Oui,
c'est plus difficile.
C'est complexe. Au contraire de la chèvre de Freud.
Voilà, mais c'est non. En fait, ça a une connotation extrêmement sexuelle et c'est un peu le, si vous voulez, ce qu'on appelle le candolisme aussi, c'est-à-dire le roi Candole qui avait du plaisir à voir sa femme avec son chef d'état-major, lequel l'a tué dans l'histoire.
C'est du voyeurisme.
Ah oui, bien la conversion, il y a une dimension qui si vous voulez, alors vous êtes peut-être déçu pour ça. Non, il y a aussi autre chose peut-être, mais enfin c'est quelque chose qui s'inscrit dans le polyamour qui a été vécu par les adamites, etc. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'en faire une déclinaison nécessairement obscène ou salace.
Non.
Mais en tout cas,
c'est quelque chose qui
nourrit. Aussi tout le rapport du monde slave en grande partie à l'amour, et c'est aussi l'un des éléments de
clé
l'enfant de Bohème
livre.
Car l'enfant de Bohème, d'abord, c'est l'attribut de l'amour. L'amour est enfant de Bohème.
Oui, amour est enfant de Bohème. Et puis vous m'avez aussi rappelé que l'épectase, c'était le décès pendant l'orgasme. Merci beaucoup Gilles Kepel. Donc Enfant de Bohème,
je vous le souhaite
est
pas,
publié
hein.
chez Gallimard. Enfin, ça vaut
peut-être
la moindre des morts.
Finalement.
Donc, et Annette Wiewiórka, votre livre, c'est le Tombeau, autobiographie de ma famille, sous-titre qui fait signe un peu à Pierre Pachet.
À Pierre Pachet, absolument.
Le livre est publié aux éditions du Seuil. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Yvan Charby. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre « Pascal et la proposition chrétienne ». Mon invité sera Pierre Manant. Dans un instant, « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannonet.